J'aimerais que les points sur les i ne soient plus jamais dans la gueule. J'aimerais qu'on respecte la vie, pas simplement dans un linceul. J'aimerais que la mesquinerie prenne pour un temps de la hauteur. J'aimerais que même les vieilles filles aient une nuit droit au bonheur. J'aimerais que le Père Noël n'ait pas chopé de Parkinson et qu'il descende enfin du ciel pour voir un peu si c'est un homme.
Au conditionnel improbable, j'aimerais tant et tant de choses magnifiques et invraisemblables, comme une terre jonchée de roses. À l'imparfait de tous les temps, au futur de tous mes espoirs, j'aimerais parfois juste un instant, un autre livre, une autre histoire.
J'aimerais bien que l'infini ne soit pas qu'un vieux théorème, que le cancer soit interdit, au moins à tous les gens qu'on aime. J'aimerais que les bars sur l'été soient en chocolat pour les gosses et qu'avoir 10 ans à Bombay ne veuille plus dire « tais-toi et bosse ». J'aimerais que la barbarie ne soit plus dans le dictionnaire qu'un nom de figue, un nom de fruit, une douceur pour le dessert.
Au conditionnel improbable, j'aimerais tant et tant de choses magnifiques et invraisemblables, comme mettre la bêtise sur pause à la lumière de nos passés, pour donner un sens à la fête. J'aimerais un matin colorié en vers de tous les grands poètes.
J'aimerais, pour les rides au cœur des ambitieux inconsolables, un lifting, un brin de fraîcheur pour faire des aigris présentables. J'aimerais que les religieux ne prêchent plus l'intolérance, mais autant demander à Dieu d'inviter le diable en vacances. J'aimerais que le quotidien, cette moisissure de nos toujours, nous ait épargné en chemin, que l'on s'aime encore, comme au premier jour.
Au conditionnel improbable, j'aimerais tant et tant de choses magnifiques et invraisemblables, comme une terre jonchée de roses. Au futur du plus qu'incertain, à tous les temps de l'illusoire, j'aimerais un matin magicien, juste pour le bonheur d'y croire.
Bonjour, auditeurs de Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, c'est une émission de fin d'année, hein, enfin on n'est que le 24 décembre, et nous avons le plaisir d'avoir dans le studio, à la technique, Laurent Garibian, qui ne m'entend pas, je ne sais pas pourquoi.
Il entend.
Voilà. En face de moi, j'ai Frédéric Zetoun.
Bonjour Evelyne.
Voilà. Et à ma droite, Michel Tourte. Voilà.
Ah, oui. Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Qui viendra nous dire des textes de son choix.
Oui, très peu.
Enfin, très peu. Enfin, tu sais, tu as le temps. Alors, on attendait Anne Delalleux pour chronique théâtrale, mais les métros sont fermés. Il y a des manifestations. Enfin, bref.
Je confirme.
Entre guillemets, c'est le bordel pour la circulation. Voilà. Mais Frédéric, je ne sais pas, il a une baguette magique et il a quand même réussi à arriver jusqu'au studio.
Baguette magique, non, Evelyne, je suis parti très tôt. J'ai écouté les conseils de notre ami Laurent Garibian qui m'a dit « pars tôt ». Et quand il m'a laissé ce message, j'étais déjà parti depuis un bon moment. Ah, effectivement, oui. On circule très très mal dans Paris, mais je suis ravi d'être avec vous à ce micro.
Voilà, et moi aussi je suis ravi de vous avoir en face de moi. Avec Laurent, on a parlé de, on a l'occasion de se rencontrer et il m'avait parlé de vos disques qui étaient parus, notamment J'aimerais,
oui.
que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai écouté certaines chansons. Il y en a que j'aime plus que d'autres.
Bien sûr.
J'aimerais, et puis j'en ai noté encore d'autres. Vivre. Alors, je sais pas si c'est Vivre,
ouais, ça existe aussi.
Apprends à désobéir.
Tout à fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup aussi.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y en a tout un tas que j'ai noté et j'ai demandé à Laurent de noter, parce que ça va ponctuer le petit interview. Hein. Donc, il y avait j'aimerais. Alors, j'aimerais. Apprends à vivre.
Non, c'est
à désobéir. C'est à peu près la même chose.
C'est un peu pareil.
Voilà, vivre la vie sur son visage. Celle-là, j'aime beaucoup.
Merci. Ah,
j'aime beaucoup parce que. Enfin bon, c'est un truc personnel. Hein.
La vie.
Ensuite, il y a les duos en solitaire. Alors, il y a bien au contraire. Ça, c'est avec Charles Aznavour.
Tout à fait.
Et le monsieur de la télé, Marie-Paul Belle. Moi, j'aime beaucoup Marie-Paul Belle.
Moi aussi. Voilà. C'est une bonne copine, Marie-Paul.
Oui, c'est une bonne copine, ouais. Puis elle a une pêche d'enfer, hein,
C'est une vraie artiste.
C'est une vraie artiste. Donc, je vous redonne le papier à Laurent. Et donc, on passera au moins ces chansons-là. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, effectivement, il y en a et ce sont des chansons que vous avez écrites.
Toujours.
Pour les chanter vous-même.
Oui, tout à fait. Oh, y a parfois des chansons que j'avais écrites en pensant peut-être au début les proposer à d'autres. Et puis, elles s'imposaient tellement. J'avais tellement envie de les chanter que finalement, je les ai gardées, quoi.
Ah oui, hein, c'est comme il y a des enfants, enfin comme c'est pas des enfants, mais si non. Les chansons c'est un peu
je compare pas les deux.
Non, d'accord, pas des enfants, mais des.
J'ai un fils, j'ai un grand garçon.
Oui, c'est... oui, Simon, il serait jaloux.
Non, c'est même pas qu'il serait jaloux, c'est que c'est pas du ça, ça n'a rien à voir.
Ça dépend. Moi, je connais des poètes qui m'ont dit mes poèmes, ce sont comme mes enfants, mais ils n'avaient pas d'enfants. Voilà.
Disons que les enfants, il n'y a pas besoin de leur donner de l'argent de poche. Quoi.
Les poèmes, il n'y a pas besoin de les.
Non,
les
mais enfin, c'est une boutade, évidemment.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Comparaison,
bien sûr. Voilà. Bien sûr.
On accouche quelque part de
Oui, c'est des petits moments de nous-mêmes, c'est des petits bouts de nous-mêmes. Mais rien ne peut remplacer un gosse.
Non, mais je sais bien. Mais je veux dire,
j'ai compris.
Le fait d'accoucher, voilà.
Exactement. Hein, j'ai bien compris.
Ça sort pas. Ça, j'imagine qu'un poème, une chanson, ça sort. Un beau jour, peut-être que ça sort comme ça d'un seul coup. Mais je crois que ça se mature dans l'inconscient. Enfin, avant que ça arrive, non?
Il y a. J'ai pas de vérité par rapport à ça. Il y a des chansons qui sont venues comme ça.
Ouais.
Qui fondamentalement, j'ai l'impression qu'elles m'étaient dictées.
Ah oui.
Honnêtement, ça m'est arrivé à 2-3 reprises où vraiment le truc vous tombe dessus, vous avez l'impression que c'est bien votre main qui est en train d'écrire, mais vous avez l'impression qu'il y a une espèce de souffle qui vous guide.
Ah, la muse, inspiration, non, même pas.
Je mets pas de nom là-dessus.
Non.
Le coup de bol, surtout le matin plein de soleil, quoi, où vous vous levez et ça vient. Et puis parfois ça va vous prendre. Enfin bon, Michel connaît ça aussi.
Je me rappelle, ça me fait penser à une interview de Jacques Brel qui disait une fois, on lui demandait comment ça vous vient, les chansons, et dire, bah, si ça venait comme des boutons sur le nez, ça serait formidable.
C'est beaucoup de boulot souvent quand même.
Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, je sais pas. Il y en a certaines qui ne doivent pas donner beaucoup de boulot. Enfin, vous avez l'impression que ça n'a pas donné beaucoup de boulot. Et puis d'autres, effectivement. Il n'y a pas de recette.
Il n'y a aucune recette, voilà. Ce sera
voilà,
là.
Voilà.
Il n'y a pas de vérité par rapport à ça.
Il n'y a pas de vérité. Donc, il y a ce livre, Fauteuil d'artiste. Alors, j'ai jeté un petit coup d'œil sur Facebook. C'est un livre qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Hein. Ça a l'air.
Il est sorti il y a tout juste 2 mois. Et franchement, je suis très content de l'accueil que rencontre ce bouquin. Et je suis surtout très content des réactions qu'il provoque.
Ah.
C'était un livre qui était là pour faire un peu bouger les choses. Mmh. Enfin, c'était un petit peu mon souhait. Et d'abord, c'était un livre avant tout qui je voulais rendre hommage à mes parents qui ne sont plus. Vous savez très bien que les êtres humains, c'est comme les chansons. Les chansons, quand on les chante plus, elles meurent. Et les êtres humains, quand on n'en parle plus, ils meurent aussi. Et j'ai eu la chance d'être élevé par des parents assez formidables, assez précurseurs dans leur naïveté. Ils n'étaient pas du tout armés pour faire de la politique. Ils avaient tous les deux un certificat d'études en poche. Ouais. Et ils ont fait bouger les lignes, justement, pour Je suis né paraplégique. Pour pouvoir justement que je sois scolarisé dans les années 70, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien. Je ne dis pas que c'est parfait maintenant, mais à l'époque, c'était pire que tout. Et donc, j'ai été à chaque fois le seul élève en situation de handicap à l'école maternelle, à l'école communale, au CES, enfin, au collège et au lycée. Et ça, je le dois à cet apprentissage, cette chance que j'ai eue d'apprendre.
Oui.
Cette chance-là, c'est la fougue de mes parents, la fougue qui a parfois été jusqu'à la violence, pour que je puisse intégrer...
Il a fallu lever le ton quand même, lever la voix, quoi, pour même plus que ça.
Donc c'était vraiment... je voulais leur rendre hommage à eux, déjà, à la base. Et puis effectivement, je trouve qu'en France, on est très en retard sur la situation des personnes en situation de handicap, sur le regard qu'on porte, sur ces lois qui n'en finissent jamais d'être appliquées, qui ne sont pas appliquées, qui sont sans cesse avec des dérogations. Et j'avais très envie de pousser un coup de gueule. Donc c'est un peu l'envie effectivement de raconter mon parcours, surtout pour leur rendre hommage à eux. Les héros de ce bouquin, c'est mes parents. Laisser une trace à mon fils, qui a maintenant 15 ans, qui pour l'instant regarde ça avec beaucoup de détachement comme tous les ados, et puis faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, j'ai l'impression que c'est en train de... On commence à m'entendre un petit peu, donc c'est plutôt pas mal.
Ah bah oui, de toute façon, oui, c'est toujours continuons le combat, mais je veux dire, on peut pas cesser le combat, parce que moi je m'en rends compte, hein, j'ai un ami qui est sur fauteuil roulant.
Oui.
Et ne serait-ce que quand on va au restaurant, au café, etc., parfois c'est la galère pour aller aux toilettes. Y a pas, c'est très rare que dans les restaurants ou les cafés, il y ait des toilettes aménagées pour les personnes qui sont sur fauteuil roulant.
Alors qu'Evelyne, depuis 2005, la loi dite de l'accessibilité universelle, tous les établissements destinés à recevoir du public se doivent d'être aux normes. Et ces gens-là ont des dérogations, ils payent des amendes. La loi, tant que la loi ne sera pas coercitive, tant qu'on ne pourra pas déroger à se mettre aux normes, bah les gens paieront, demanderont des dérogations, plaideront la bonne foi. Enfin, je sais pas, on est dans un pays, dans un état de droit. Quand vous avez tué quelqu'un, que vous êtes condamné à aller en prison, vous n'allez pas donner de l'argent pour ne pas y aller. Vous allez en prison. Je suis pas du tout un adepte du système carcéral, pas du tout. Mais je veux juste dire que là, les lois ne sont pas les mêmes. Là, on peut tout à fait déroger à ses obligations et dire moi je peux pas parce que finalement faire des toilettes accessibles, ça va me prendre 2 tables de plus. Mais ces gens-là sont tellement cons qu'ils ne comprennent pas que en faisant des toilettes accessibles, ils auraient peut-être une nouvelle clientèle qui viendrait, qui aurait justement des gens en situation de handicap qui pourraient venir et pourraient consommer. Aux États-Unis, au Canada, dans beaucoup de pays d'Amérique, dans beaucoup de pays d'Europe du Nord, mais vraiment, on considère la personne en situation de handicap comme un consommateur. Ce consommateur, on a envie qu'il consomme, et donc à partir de là, ben, les commerçants sont vraiment ravis de
venir. Oui, c'est une question politique, hein, et c'est ça.
Pas que. C'est une question de conscience aussi.
Oui, mais de conscience politique aussi. Enfin, ça va ensemble.
Oui, hein. Mais pas.
Non, mais je pense quand même. Comment dire. Les politiques, s'ils veulent que quelque chose bouge, ben, il faut s'en donner les moyens.
Je pense que vous avez raison. Il y a quelque chose de politique, bien évidemment. Mais il y a aussi une conscience aussi à prendre, je pense, au niveau des personnes en situation de handicap, qui pourraient être beaucoup plus lobbyistes. Aux États-Unis, il y a des lobbies de personnes en situation de handicap qui font pression, en disant on a les mêmes devoirs que tout le monde, on voudrait avoir les mêmes droits. C'est juste ça. Aujourd'hui, la liberté d'aller et de venir telle qu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, aujourd'hui, une personne en situation de handicap, cette liberté-là, elle n'en jouit pas. Et ça, c'est juste insupportable.
Oui, voilà.
Un tout petit bémol, parce que moi, je suis un peu dans le bâtiment, c'est pour ça. Mais en fait, en réalité, en France, tout ce qui est nouvelle ouverture de RP est systématiquement aux normes. Hein. Maintenant, c'est les anciens endroits. Il faut quand même reconnaître que, je sais pas, pour prendre un exemple à Montmartre, par exemple, n'importe. Il y a des endroits où, si la personne se dit « je fais l'accès et », et le WC handicapé, c'est la moitié de l'espace. Et puis, de toute façon, elle n'a pas l'autorisation parce que ça modifie comment dire, la façade. Ça va être très dommage, mais ces endroits-là vont disparaître.
Que vous y ayez, Michel, qui est 10%. Allez, 15% des lieux qui ne puissent pas être mis aux normes, on l'entend. On l'entend. Et dans ces cas-là, on peut même trouver des aménagements. Il y a des gens qui viennent vous aider. Mais vous savez aussi très bien, comme moi, ce n'est pas vrai. Il y a des établissements qui ouvrent aujourd'hui, qui ne sont pas aux normes et qui demandent des dérogations. Et ça, vous le savez comme moi. C'est faux. Aujourd'hui, il y a encore des établissements. Moi, j'en ai encore rencontré un, pas plus tard qu'il y a 15 jours, un café qui a été entièrement réhabilité, qui a réouvert ses portes. Ils ont fait des travaux pendant 6 mois. Et dans ces travaux, ils n'ont pas pensé à faire des toilettes handicapées en disant ça va nous prendre beaucoup de place. Mais attendez, ça va aussi leur faire gagner beaucoup de clientèle. Et puis, c'est même pas le propos. Vous êtes un établissement destiné à recevoir du public, tous les publics. Et il n'y a pas de dérogation qui tienne. Ces dérogations, elles sont menées, elles sont prolongées. En 2005, on leur a donné jusqu'en 2015. En 2015, Hollande a dit, bah, maintenant, on va leur donner jusqu'en 2024. De 2005 à 2024, je vous signale qu'il y a des gens qui sont morts entre-temps. Qui n'ont pas pu voir. Les dérogations, elles sont toujours là. Mais il y a des mecs qui ont des maladies neurologiques évolutives. Il y a des gens qui sont morts. C'est scandaleux. Et c'est pas vrai. Et il y a encore des établissements qui ouvrent et où, parfois, quand on peut pas, bien évidemment, il s'agit pas d'être complètement jusqu'au boutiste et intégriste. On peut pas. Un établissement classé, on peut pas. Mais dans ces cas-là, généralement, ces gens-là...
Il y a des établissements classés qui le font. Hein.
Non, mais il y a des vieux théâtres parisiens, je pense notamment au théâtre des Bouffes Parisiens. Là, c'est vraiment le théâtre d'Offenbach. Mais ce qu'ils font quand vous voulez aller là-bas, ils sont super sympas. Vous prévenez, ils prennent des étudiants, ils vous aident. Il y a d'un côté ce qu'on peut faire par la loi, ce qu'il est possible de faire dans l'architecture, et puis il y a la bonne volonté aussi des gens. La bonne volonté, moi, je la vois pas toujours, honnêtement.
Ah oui. Non,
moi, j'ai l'expérience aussi, hein, parce que quand il s'agit d'aller au cinéma avec une personne qui est sur fauteuil roulant, on a droit qu'à une seule salle. Pour le théâtre, il y a plein de théâtres, on ne peut pas y aller.
Non, mais c'est ce que dit Michel. Voilà. Mais parfois, on ne peut pas y aller parce que les travaux ne sont pas faisables. Mais parfois, ils sont faisables et ils sont repoussés.
C'est pas seulement dans le privé. Hein, parce qu'à ce moment-là, prend le métro, il y a plein d'accès de métro qui ne sont pas équipés.
Mais surtout, le métro,
c'est pas qu'il y en a plein. C'est qu'il y a une ligne qui est possible, c'est tout. C'est pas qu'il y en a plein. Il y a que la ligne 14, c'est tout. À ce jour, il n'y a que la ligne 14.
On ne va pas polémiquer là-dessus. Non, c'est trop long, là. Là, je commence... Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'accès aux établissements publics. Voilà, point, c'est vrai, c'est énorme. Et j'en ai l'expérience. Je dis pas ça d'un point de vue théorique parce que je connais la situation. Qu'est-ce que tu veux? Et justement, j'allais dire à Frédéric Zetoun. Zetoun, c'est d'origine suisse.
Tout à fait.
Voilà, on peut le dire.
Bah, bien sûr.
Et finalement, vos parents, ils sont arrivés en France à cause de vous, quelque part.
Oh, ils devaient partir. Hein.
Ils devaient quand même partir. Ils sont allés plus vite.
Ils sont allés plus vite. Ça a un petit peu hâté les choses, tout à fait.
Ça a hâté les choses, voilà. Parce que vous avez été opéré à quelques jours de la naissance.
8 jours.
8 jours de naissance dans un hôpital parisien.
Tout à fait.
Voilà. Donc ils n'ont pas perdu de temps, quoi.
Non, heureusement d'ailleurs, heureusement.
Voilà. Vous avez quand même parlé. Vous êtes ici en tant qu'artiste, parce que votre bouquin, c'est bien marqué fauteuil d'artiste.
Ah mais tout à fait, mais vous savez, mais le fait d'être artiste n'empêche pas d'avoir aussi quelques coups de gueule, l'un n'empêche pas l'autre.
Parce que avant de passer une chanson que j'apprécie particulièrement. En lisant votre livre, qui se lit très très agréablement, quoi. Je veux dire, c'est fluide, quoi, comme lecture. On n'a pas, c'est très fluide. Mais parfois, à un moment donné, je me disais, mais Frédéric Zetoun, il est trop gentil. Enfin, il est bienveillant. Il fait des compliments à beaucoup de gens parce que vous avez un sentiment de reconnaissance pour
un petit peu. Pour qui?
Ben pour beaucoup d'artistes. Les artistes qui vous ont accompagnés.
J'allais pas parler de ceux que je déteste.
Ben voilà, voilà, très bien.
C'est pas du tout. Non, je vous arrête tout de suite là. C'est pas du tout de la gentillesse. C'est que j'ai fait un bouquin. J'ai la chance de faire un bouquin de 240 pages.
Oui.
Pour raconter mon parcours. Si je parle de certains artistes, je vais pas en plus m'ennuyer à user de l'encre, du temps et de l'énergie pour parler des gens que je déteste. Déjà, généralement, je suis plutôt. J'essaie toujours d'être plutôt bienveillant avec les gens. Enfin, je tente. Mais en plus, là,
Mais c'est dans votre nature, c'est dans votre nature. Et justement, à un moment donné...
Mais je peux vous assurer que quand j'aime pas les gens, je les aime pas. Hein,
ben voilà, justement, non mais j'ai eu cette réflexion en moi-même. Ça ne veut pas dire que ce soit juste. C'est moi, comme ça.
Mais
et à un moment donné, je suis tombée sur votre coup de gueule.
Mais il y en a plusieurs de coups de gueule là-dedans, il n'y en a pas qu'un seul.
Oui, alors, oui, on cite les.
Mais quand je parle de la mairie de Paris, par exemple, excusez-moi, je n'ai pas l'impression d'être
tiède. Oui, mais c'est toujours sur le problème des personnes en situation de handicap.
Oui, bien sûr, mais sur les artistes, honnêtement, je n'allais pas faire un bouquin pour dézinguer des gens, enfin, ça ne m'intéresse pas.
Vous avez raison,
moi, je préfère...
Donc, vous avez réponse. Non, mais ne serait-ce aussi que dans votre répertoire, on sent que y a de la bienveillance en vous, enfin, je veux dire, c'est naturel, mais peut-être parce que c'est grâce à vos parents qui vous ont éduqué dans... Vous êtes, on sent qu'il y a de l'optimisme, vous êtes positif.
J'aime la vie, oui. J'aime la vie, j'ai la chance qu'elle ne m'ait pas trop mal aimé non plus, donc... Et puis je pense que même quand on veut dire des choses, même quand on veut dire à certaines personnes qu'on n'est pas d'accord avec elles, pour pouvoir être audible... j'aime pas, moi, la
polémique. Il ne faut pas être agressif.
Non, la polémique, je la pratique aussi, vous inquiétez pas, j'ai aucun souci là-dessus. Je suis pas quelqu'un de tiède, loin de là. Mais je pense que parfois, on est plus audible en étant pondéré dans ses propos, ce qui n'empêche pas le fait de ne pas être... Bon, vous savez, les chansons Le Point Levé, les chansons militantes, Misère, Misère, ça m'a toujours... Mais vraiment, ça m'a toujours ennuyé, quoi. Vraiment. Je pense qu'on peut faire passer certains messages avec poésie et avec beaucoup plus de finesse que les chansons un peu caricaturales, rive gauche des années 50 et 60. Ça m'a toujours gonflé. Alors vraiment, mais profondément gonflé.
Oui,
je pense qu'on peut être... beaucoup plus entendu. Vous savez, la plus belle chanson contre la peine de mort qui a jamais été écrite, pour moi, c'est pas la peine de mort, c'est dégueulasse. C'est le gorille de Brassens. En deux phrases, il a tout dit.
D'accord.
Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fin que d'être avec des gros sabots à dire les choses au premier degré. Donc, dans ce bouquin, si vous avez bien lu, il y a entre les lignes des petits coups de griffe. Mais...
Oui, mais parce que de toute façon, c'est... je pense que c'est naturel aussi d'être en colère, d'être en rogne, ça fait partie de...
Bien sûr, et on peut pas aimer tout le monde. Mais quand on fait un livre où on célèbre la vie, bah je préfère célébrer les gens qui m'ont aidé à la rendre belle, cette vie, que des trous du cul qui m'ont plutôt ennuyé. J'ai pas de temps à perdre avec ça.
À un moment donné, vous racontez... parce que là, vous êtes mis en colère, c'est quand vous étiez à la gare de Lyon, ou je sais plus où... Ah non, vous alliez à Montpellier.
C'était à la garde. Non, mais là, on va revenir sur les.
C'est pas
sur
grave,
les personnes.
On va faire ça 3 secondes, oui. 10 secondes. Oui, là, vous êtes vraiment mis en colère parce qu'on ne voulait pas vous installer dans le train.
On ne voulait pas m'aider à accéder dans le train parce que
j'avais 10 minutes de retard.
J'étais pas arrivé 30 minutes en avance, mais 20 minutes en avance.
Voilà.
Oui, là, je peux vous assurer que dans ces cas-là, je ne suis pas du tout tiède. Hein, mais vraiment pas.
Et ben voilà. Là, ça m'a étonné. Parce que, alors, votre réflexion, vous dites comment ça fait des années que j'essaie de faire bonne figure, vous l'écrivez dans le texte, et là, cet employé de la SNCF. Elle me fait sortir de mes gonds.
Oui.
Là, vous étiez malheureux.
J'en veux à cette personne, surtout, d'avoir eu ma colère. Parce que la colère, c'est un sentiment, il est humain, mais on essaye toujours de rester dans une forme de discours, dans une forme de négociation. Et là, d'un coup d'un seul, je suis sorti de mes gonds comme un animal blessé. C'est exactement ce que je raconte dans ce bouquin. Mmh. Et ce jour-là, j'en ai voulu à ce crétin, à ce mec, d'avoir eu ma colère. C'est pas un sentiment, on se sent pas bien une fois que vous êtes sorti de vos gonds, vous avez les mains qui tremblent et vous êtes pas forcément heureux d'avoir fait ça. Mais il a fallu que je fasse ça pour pouvoir monter dans le train.
Eh oui, je comprends, tout à fait. On va écouter, alors, on a au choix, hein, parce qu'on a du choix quand même. On a. Alors j'aimerais, on l'a déjà entendu, oui. Vous l'avez déjà mis. On va mettre. On va mettre la vie sur son visage. Et puis après, on mettra apprendre à désobéir, parce que je vais poser des questions sur apprendre à désobéir. Vie sur son visage, alors c'est dédié à Gérard Davoust.
Oui.
Et j'aime beaucoup le texte.
Merci beaucoup.
Il a la vie sur son visage, une existence à livre ouvert, même si ses rides n'ont plus d'âge, il a une gueule d'enfer. J'ai vu dans ses yeux délavés tant de bienveillance et d'amour, une leçon d'humanité qui guide mes choix chaque jour. Chaque sillon sur sa figure chante une époque de sa vie. Si l'on voit qu'elle a été dure, on comprend surtout qu'il a ri. Au coin de ses yeux, la malice a griffé quelques pattes d'oie. Et j'aime lorsque son front se plisse, cherchant un nom qu'il ne trouve pas. Il a la vie sur son visage, de la grisaille de ses tempes, au creux de ses rides sans âge. C'est près d'un siècle qui me contemple. J'ai pris dans ses yeux délavés tant de force et tant de confiance qu'à chaque moment partagé, je prends conscience de ma chance. S'il n'a pas fait de longues études, il est diplômé de la rue, sorti major dans les cours rudes de tant de combats à main nue. Il connaît de la chose humaine ses vilainies et ses grandeurs, même au vent mauvais de Verlaine. Il garde encore de la hauteur. Il a la vie sur le visage, tant de soleil sous les paupières, rapporté de tant de voyages que l'on devine imaginaire. S'il a le sourire des enfants, quelque temps manquant à l'appel, il joue comme eux de temps en temps à s'évader loin du réel. J'ai toujours eu pour les anciens et des égards et du respect, mais le mot vieux ne rime à rien, rien depuis que je le connais. Je pourrais même à l'écouter finir par le croire éternel, tant je n'ose m'imaginer un jour sans sa voix qui m'appelle. Il a la vie sur son visage, une existence à livre ouvert. C'est chez lui les soirs de naufrage que je reviens pour toucher terre. Il est mon tout, il est mon sage, c'est ma boussole et mon repère. Je l'aime chaque jour davantage, moins que demain et plus qu'hier. Il est mon tout, il est mon sage, c'est ma boussole et mon repère. Je l'aime chaque jour davantage, moins que demain et plus qu'hier.
Comme ça résonne. Il y a un écho.
Ça résonne terriblement, oui.
C'est pas grave. Il y a un écho. Donc, ça résonne comme une lettre d'amour. Hein.
Ça l'est, une déclaration d'amitié, en tout cas.
Mais ça peut être... C'est pour Gérard Davoust,
oui.
On a compris. Mais on peut prendre pour soi aussi.
Bien évidemment. Et je voudrais surtout citer le compositeur qui a mis ce texte en musique et qui l'a fait avec un cœur et avec une gentillesse. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, qui est vraiment devenu un ami, qui est quelqu'un que j'admirais quand j'étais gamin, quand j'écoutais ses chansons, quand j'étais adolescent, qui est vraiment devenu un ami aujourd'hui. C'est Yves Duteil qui a fait la musique de cette chanson.
Ah oui, Yves Duteil. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à un salon du livre, à un salon des chansons. Voilà, c'était des chansonniers qui étaient réunis tous avec leurs livres.
C'est un être humain que j'aime énormément.
Ah oui, oui, oui. Et vous l'avez vu récemment au Casino de Paris.
Effectivement,
le 5 décembre.
Il m'a fait ce cadeau de monter sur scène et de chanter avec moi une chanson, effectivement.
Ouais, il y avait du beau monde, hein, j'ai cru comprendre. Hein. M'a raconté Laurent qui a assisté au concert.
Ah ben ouais, Laurent, c'est un fidèle, Laurent, c'est un fidèle parmi les fidèles.
Voilà. Alors, en fait, bon, le livre, c'est copieux quand même, hein, 240 pages, enfin, j'ai pas compté le nombre, mais c'est copieux. Ça peut se relire à plusieurs fois parce qu'il y a des chapitres et puis il y a des titres de chapitres qui font tilt. Par exemple, au chapitre 3, nul ne guérit de son enfance.
Non, c'est vrai, c'est le fameux poème que Jean Ferrat a mis en musique. Oui. Nul ne guérit de son enfance. Mais c'est vrai que l'enfance, c'est un petit peu ces casseroles qu'on va trimballer pendant toute sa vie, quoi. C'est vrai qu'on fait avec son enfance. Je pense pas qu'on en guérisse. Je pense qu'on l'apprivoise, son enfance. On fait avec.
Ouais.
C'est un petit peu c'est la maison qu'on emmène, telle la tortue sur le,
ouais,
sur le dos.
Et c'est là que vous avez découvert.
Ou pas là. D'ailleurs. Michel, je vous sens dubitatif là-dessus.
Non, je me rappelle que quelqu'un a dit tout c'est de survivre à son enfance. Je me demande si c'est pas Brel, Léo Ferré, mais je suis pas sûr.
Enfin, oui,
oui, bon, ça ressemble à du Ferré, tout oui. À fait.
C'est universel hein, comme impression, hein, j'imagine.
Bien sûr.
Donc, alors, nul ne guérit de son enfance. Ce que je voulais, alors j'ai écouté quelques YouTube et à un moment donné, vous dites, vous parlez du regard des autres, mmh. Voilà. Et donc, je pense, le regard des autres, vous avez commencé à le ressentir de façon un peu négative pendant l'enfance.
Oui, bien sûr, puisque à l'adolescence, très très précisément,
oui.
L'enfance, j'étais un petit peu, vu que j'étais le seul modèle comme ça dans l'école,
oui.
Effectivement, ça suscitait les interrogations, mais...
Non, l'enfant, ça allait encore.
Ça allait, mais c'est à l'adolescence, c'est normal, et c'est totalement humain. L'adolescence, c'est un âge où beaucoup de gens, où beaucoup d'ados ont déjà du mal à se supporter eux-mêmes, donc supporter l'autre, c'est très facile à ce moment-là de prendre un bouc émissaire, et j'étais un bouc émissaire sans aucune... propension à me victimiser, mais c'était comme ça. Quoi.
L'intelligence, c'était... quand même, non, ça n'existe pas.
Mais l'intelligence chez les gamins de 14 ans ou de 15 ans, mais ça n'existe pas.
Ah bon ?
À ce moment-là, non. On essaye de se valoriser déjà soi-même à ses propres yeux. Donc, moi j'étais boutonneux, j'étais bègue, et j'étais en fauteuil roulant et j'étais bon élève. J'avais tout pour plaire, quoi. J'avais vraiment tout contre moi. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein, ce qui ne nous tue pas.
Comment vous vous êtes défendu ? Parce que vous êtes défendu. Vous êtes...
Pas du tout, je me suis...
Écrasé ?
Absolument pas.
Alors,
je me suis défendu en continuant à faire ce que j'avais à faire, c'est-à-dire à être là, à dire que moi, je voulais être avec les autres, je voulais être comme les autres, et à tendre la main, quoi. Et puis, quand il est arrivé vraiment que ça aille trop loin, bien sûr que je me suis défendu, même physiquement. Mais c'était le but du jeu, c'était pas non plus de rentrer en guerre avec tout le monde.
Mais je comprends bien.
Et le but du jeu, c'était justement de faire avec et de dire...
Moi, je pense que c'est là où votre combativité... C'est construite, plus ou moins. Enfin, je veux dire...
Peut-être.
Vous êtes combatif. Il me semble.
On l'est tous, à un moment ou à un autre, et face à l'adversité, face à une situation... Je ne suis pas un exemple, hein, vous savez, il y a des tas de gens qui sont pas en fauteuil roulant, qui ont des handicaps... vous savez, ce ne sont pas les handicaps les plus visibles, qui sont les plus...
Je suis au courant.
Les plus compliqués à vivre, donc
je pense que, très bien, ouais.
Par rapport à une... Enfin, vous savez, c'est... On va essayer de résumer un petit peu le propos. La vie vous donne des cartes. Vous avez des cartes en main. Avec ces cartes-là, vous décidez de vivre ou vous décidez de lâcher les cartes et de partir ailleurs. Moi, j'ai fait le choix de continuer à vivre, de vouloir vivre avec les cartes qui m'avaient été données. À partir de là, oui, je pense que s'exerce une forme, je sais pas, de combativité ou de résilience, appelez ça comme vous voulez. Mais...
Alors, le mot résilience, pas bon, tellement, parce que c'est trop galvaudé, voilà.
Je suis
mais la combativité...
L'envie, tout simplement, l'envie de vivre. Oui. Bah, vous avez envie d'aller dans un lieu, vous avez envie d'aller là, c'est pas forcément accessible, vous allez trouver le chemin de traverse qui va vous y amener, voilà, c'est tout. C'est un peu d'inventivité aussi, un petit peu d'inventivité pour arriver à faire ce qu'on a
non,
à faire.
Non, mais je sais bien, mais par exemple, dans votre parcours d'artiste, qui a commencé de très bonne heure, puisque je ne sais plus vous raconter que vous êtes allé à Port-Barcarès en vacances.
Oui, j'étais ado.
Et que déjà, vous vouliez faire de la scène.
Oui, tout à fait.
À 15 ans.
Écrire, en tout cas. En tout cas, écrire.
Écrire. Et vous avez fait la scène, vous étiez tout jeune. Les premières scènes que vous avez faites.
Oui, c'était maladroit. C'était des, chansons qui n'avaient de chansons que non.
Mais il faut toujours remettre un pied à l'étrier.
Bien sûr. Ah, mais je ne renie rien de tout ça, au contraire.
Et vous racontez, plusieurs fois dans le corps de votre livre, vous dites, j'ai fait l'état de siège.
J'avais l'impression qu'avec les chansons, j'allais m'en sortir. J'ai toujours pensé qu'avec l'écriture, avec ces chansons, quand j'écoutais des chansons, j'allais mieux. Donc je pensais que c'était une façon de changer de registre, une façon de changer cette espèce de quotidien qui n'était pas vraiment très très drôle. Si j'arrivais à écrire, si j'arrivais à chanter, si j'arrivais à rencontrer des gens qui faisaient ce métier, j'avais l'impression que je serais plus heureux, que j'allais me réaliser. Mais c'est pas qu'une impression, c'est
la vérité.
C'est ce qui a guidé ma vie.
Oui.
Et aujourd'hui, je vais bien parce qu'on sort d'un casino qui s'est bien passé, parce que ce bouquin a un bon accueil et voilà, et que je suis ravi comme aujourd'hui avec vous de venir en parler. Donc quand on se réalise en tant qu'artiste, on va mieux que quand on se réalise pas, quoi. Et c'est vrai que j'avais la sensation que ce trop-plein d'émotions, ces choses que j'arrivais pas à dire dans la vie de tous les jours, j'aurais beaucoup plus de facilité à les faire passer par de l'écrit. Donc oui, très très vite...
Mais vous en avez eu conscience très tôt.
Inconsciente, c'était complètement inconscient.
Oui,
à 14 ans, je me disais pas écrire et ça va aller mieux.
Quoique, vous savez, ça commence tôt,
C'était pas... Enfin, moi, je pense que c'était vraiment... En tout cas, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, c'était profondément inconscient. Quand ça a commencé à vraiment devenir sérieux, où j'ai commencé à faire des maquettes, à tourner dans les maisons d'édition, à commencer à faire des chansons, à les proposer aux autres, oui, j'ai vu qu'il y avait là un métier à faire et que j'avais tout à apprendre, surtout parce que j'étais encore très vert. Et on apprend toujours, vous savez, on apprend toujours à écrire mieux et à faire mieux. Enfin, ce qui est formidable dans les métiers de créatif, dans les métiers artistiques, c'est qu'on n'est jamais arrivé, qu'on peut toujours faire mieux.
Oui, ça fait partie de vous. À un moment donné, vous écrivez, la chanson, c'est la colonne vertébrale de ma vie.
Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est ma respiration. Je ne peux pas passer une journée sans écrire sa mère. Ça m'arrive malheureusement parce que j'ai pas toujours le temps, mais je ne peux pas passer une journée sans entendre de la musique, ça c'est sûr.
Voilà. Alors, je suis donné au choix parce que il y en a pas mal. Tout à l'heure, je parlais de apprendre à
désobéir.
On peut l'écouter. Mais sinon, si vous en avez d'autres, alors j'ai vivre. Bien au contraire avec Charles Aznavour. Le monsieur de la télé.
Ce qui vous fait plaisir, c'est vous qui choisissez.
Alors, on va mettre apprendre à désobéir. Enfin, c'est moi, c'est vous aussi. Hein.
Transmis toutes mes valeurs, tout ce que je suis, des tonnes d'amour, des nuits de veille, mon souffle court sur ton sommeil. Pour être honnête, j'ai fait de mon mieux, mais y a pas d'omelette sans casser d'œufs. Alors qu'importe ce qu'il m'en coûte, un dernier conseil pour la route. À désobéir, je sais que ça peut faire sourire, donc je ne suis pas délirant, c'est là mon devoir de parent. Apprends à désobéir, ne te soumets pas sans maudire, c'est un 11e commandement, n'obéis pas aveuglément. garde toujours ton élégance en tout lieu, toute circonstance, même si l'on vient te l'acheter. Ne perds jamais ta dignité, n'aie de respect pour tes semblables que s'ils te semblent respectables. À l'évidence, il faut me rendre la seule chose que je ne peux t'apprendre. Apprends à désobéir, ça pourra toujours te servir. C'est une clé de ton destin. Fais un effort, c'est pour ton bien. Apprends à désobéir, ne ploie jamais sans réfléchir. C'est un 11e commandement, comme les 10 premiers, souviens-t'en. Apprends à désobéir, même si ça doit me faire souffrir. C'est ta seule chance de grandir. Apprends à me désobéir.
Alors, là, c'est une chanson qui est dédiée à votre fils, oui. Simon. Et bon, c'est toujours pareil, moi, je m'identifie à... Apprends à désobéir, je le prends pour moi.
Très bien, excusez-moi. Mais au contraire, ça me fait plaisir.
Je deviens une adolescente, parce que j'ai bien compris que ça s'adresse à un adolescent. Et je me dis qu'un tel texte, quand même le fruit d'une certaine expérience.
Oui.
Et je voulais essayer de comprendre comment ce sentiment apprendre à désobéir, parce que c'est quand même assez fort, quand même, apprendre la désobéissance. Comme, alors que moi, j'ai toujours senti que la désobéissance, ça peut être instinctif. Enfin, moi, je le ressentais comme quelque chose d'instinctif. Mais,
oui, là, c'est bien évidemment, vous avez raison. Bah, en fait, apprends par toi-même la seule chose que moi, je ne peux pas t'apprendre. Justement, c'est apprendre à désobéir. La seule chose que je ne peux pas t'offrir, c'est ça. Je peux t'apprendre à être poli, je peux t'apprendre à respecter les autres, je peux t'apprendre... La seule chose que moi, je ne pourrais pas t'apprendre, c'est apprendre à désobéir. C'est en fait, ne fais pas exactement... Enfin, n'écoute pas toujours tout ce qu'on te dit, ne fais pas toujours, ne ploie pas toujours sans réfléchir,
et
garde
c'est...
ton libre arbitre. Mais en disant ça à mon fils, c'est une formule, c'est un petit peu de la provoque aussi.
Oui, c'est ça, oui.
Mais c'est vrai, apprends par toi-même, apprends à te faire ton propre jugement.
C'est-à-dire qu'il faut se faire confiance à soi aussi, voilà.
Effectivement, c'est question de ne crois pas que ce qu'on va te donner comme des ordres soit toujours du pain béni et qu'il faille absolument toujours respecter. Heureusement que dans l'histoire avec un grand âge, d'ailleurs, il y a des gens qui m'ont appelé à désobéir, heureusement.
Il faut prendre des chemins de traverse parfois.
Il faut garder
tous les chemins mènent à Rome, hein, c'est le truc tout droit. Et je suis pas certaine. Ça dépend. Pour certains, oui, c'est très bien la ligne droite. Mais il y en a d'autres, ils ont besoin de prendre des chemins d'école buissonnaire.
Oui,
voilà.
Et puis ce que je voulais dire surtout, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, garde ton libre arbitre et ne prends pas l'autorité telle qu'on te la donne, ne la prends pas pour du pain béni, pour un commandement. Non, c'est on n'est pas l'armée, on vit pas l'armée. La vie, il y a des fois où il faudra savoir à des gens qui vont t'ordonner de faire des choses, il faudra leur dire non parce que ta conscience, qui tu es, ton éthique, ta philosophie de vie te fait dire non à ça.
Mais parfois on est timide. Enfin, ça existe des gens qui sont timides et qui n'osent pas dire non.
Bah, il y a des gens qui, de toute façon, sont totalement...
Non, mais il faut forcer sa nature. Hein. Moi, je pense que, bon, quand on arrive à 60 berges, bon, bah, on se dit, bon, ça va, j'ai plus rien à perdre. Mais quand on a 15, 10, 20 ans, enfin, quand on est jeune, La timidité, parfois, ça fait qu'on...
Et la timidité, oui. Ou plein d'autres poids, ou plein d'autres casseroles qu'on trimballe avec soi-même, qui font qu'on n'ose pas...
On obéit, et puis parfois, on n'a pas le choix. Il faut le dire ça aussi, c'est que parfois, on n'a pas le choix, on est obligé d'obéir. Et c'est ça le pire. C'est que parfois, on n'a pas le choix. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut essayer de... de s'écouter aussi soi-même, voilà. De ne pas rentrer toujours dans... On te dit, il faut faire ci, on te dit, il faut faire ça... C'est bien de laisser, alors il y a le surmoi, il y a le moi, enfin tout ce qu'on veut, c'est bien de laisser une petite, une grosse lucarne, alors on appelle ça l'ego, hein, bon, enfin bref, hein, c'est peut-être la lucarne de l'ego, hein, l'ego, oui, ouais. Et il faut lui laisser aussi sa place.
Oui, puis il faut surtout, encore une fois, je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se violer soi-même. Si on sent que quelque chose qu'on nous impose de faire ne nous plaît pas, est sale, n'est pas beau, n'est pas dans ce qu'on a décidé de vivre, n'est pas dans la vision que l'on a de la vie, ben il faut savoir dire non. Dénoncer un pote dans le travail, faire un faux mail pour que quelqu'un soit viré, ça arrive, ça, dans les entreprises
actuelles. Mais j'ai connu ça.
Ben, de temps en temps, même si votre supérieur vous dit de le faire, alors voilà, on devient très grave, mais moi, voilà, à mon gosse qui allait fêter ses 15 ans, j'avais juste envie de lui dire, apprendre de temps en temps à dire non et à dire merde, c'est bien.
Oui, d'accord. Il a compris ?
Oui. Ah oui, il a très bien compris. Alors, je lui ai dit qu'il fallait l'écouter, mais voilà, mais que pour l'instant, il écoute ce qu'on lui dit.
Il faut encore qu'il obéisse.
Voilà, que c'était apprendre vraiment au 22e degré.
Non, parce que la chanson, bon d'accord, oui, je comprends. Mais ça, c'est des leçons de vie, hein. Je veux dire, c'est une leçon de vie, quoi, parce que c'est votre expérience.
Oui, puis j'espère ne pas me tromper en lui disant ça. Je racontais à mon éditeur, que j'aime beaucoup, donc Gérard Davoust, et je déjeunais avec lui il n'y a pas longtemps, et je lui parlais de la scolarité de mon fils et tout, et du fait que parfois, voilà, on avait un peu du mal à le mettre au travail. Et il me regarde en riant, il me chante le refrain de Apprendre à désobéir, il me dit ça, mon pote, tu lui as donné, mais c'est vrai que... Quand on dit ça à son gosse, c'est une porte ouverte vers un libre arbitre, mais je regrette pas du tout, même si pour l'instant je lui dis que cette chanson il la mette de côté et qu'il écoute ce qu'on a à lui dire, mais je regrette pas du tout de lui...
Il l'a écouté quand même.
Ah, cette chanson il la connaît par cœur. Oui, oui, oui.
Ah, il la connaît par cœur.
Vraiment.
Ouais, mais il dit là c'est... Il voudrait bien le prendre à la lettre.
Oui, mais c'est un peu tôt encore.
C'est un peu tôt. Bon, d'accord. Alors, on a d'autres chapitres, parce que c'est un livre qui est vraiment copieux. Tiens, on va parler d'un sujet que mon ami, là, Jean-Marie Blanche, va peut-être apprécier, parce que, justement, grâce à Jacques Martin, il est passé au Théâtre de l'Empire, quand il était tout jeune, enfin, je ne sais plus, il avait 25, 26 ans, je ne sais plus.
Tout à fait.
Et vous en souvenez peut-être, non, vous l'avez
Je me rappelle très bien l'avoir vu à la télévision, ça j'en suis certain.
Ah ouais, parce qu'il n'est pas passé souvent. Hein.
Il n'est pas passé souvent, mais je le revois en train de passer avec cette chanson que je trouvais magnifique.
Ça tourne pas rond.
Et dans mon tête. Et j'ai toujours pensé, je vais dire un truc qui va peut-être énerver certains, il y a une chanson de Sabine Paturel qui s'appelle Les Bêtises, et j'ai toujours pensé que cette chanson avait été largement inspirée par la chanson de Francis Blanche.
Oh, c'est probable. Hein.
C'est exactement le même thème. Mmh. C'est quelqu'un qui ne fait que des bêtises, qui ne fait que... Et là où je m'étais toujours dit qu'il y avait une espèce de filiation entre ces deux chansons qui m'étonnait beaucoup. C'est exactement le même thème. Mais celle de Francis Blanche est absolument bouleversante.
Oui, exactement. Ouais. Et donc, dans le livre... Alors, il y a une chanson... Ah ben, je ne l'ai pas mise là-dessus, hein. Sous vos applaudissements, où vous parlez de Jacques Martin. Oui. On va peut-être l'écouter, mais elle n'est pas sur mon...
Elle n'est pas en disque non plus.
Elle n'est pas en disque.
Je l'ai jamais enregistrée. Je l'ai chantée sur scène.
Ah,
et c'est une chanson que je n'ai jamais, enregistrée.
Peut-être à l'occasion, on l'entendra sur YouTube. Enfin bon. Eh ben, on l'a passé, figurez-vous, sous vos applaudissements. On l'a passé ici à Radio Libertaire.
Ah bon ?
Oui, on l'a passé.
Je ne l'ai jamais enregistrée.
Ah si, il y a eu quelque chose sur YouTube où ça a été enregistré.
Alors c'est peut-être
part.
Oui, c'est quelqu'un qui a enregistré.
C'est certainement quelqu'un qui a
enregistré. On l'a trouvé sur Internet.
Ah bah tant mieux, écoutez, je serais content de l'écouter, c'est une chanson.
On l'a trouvé sur Internet, mais c'est passé il y a 15 jours.
Et Charles Aznavour avait fait la musique de cette chanson. Et
vous parlez de Jacques Martin,
bien sûr,
le portrait de Jacques Martin.
Qui était quelqu'un qui a terriblement compté pour moi.
Ouais, En quelques phrases, vous racontez votre rencontre avec Jacques Martin.
Avec Jacques Martin, je le rencontre pour un bouquin sur les années 70 que je suis en train d'écrire. Je fais un petit dico des 70s, un petit dico de cette décennie, avec les mots-clés de cette décennie. Et à la lettre P, je ne peux pas ne pas parler du Petit Rapporteur, qui a été quand même l'émission qui a révolutionné l'humour à la télévision à l'époque. Enfin, on a dit des choses dans cette émission qu'on ne disait pas avant. Et donc, je le rencontre pour ça. Et ce rendez-vous qui devait durer 10 minutes a duré 4 ans. Voilà, c'est les 4 plus belles années de ma vie et professionnelle. Quelqu'un qui m'a tout appris, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a dit qu'être en fauteuil n'empêchait pas de faire de la télévision, qu'il allait me le prouver d'ailleurs, et ce qu'il a fait, qui m'a appris mon métier. En tant qu'auteur, j'ai gagné un temps fou en bossant avec lui. C'est quelqu'un qui écoutait un texte que vous aviez écrit, et qui vous disait, change là dans la deuxième strophe, tu changes le deuxième vers, tu l'inverses avec le troisième vers, tu vas voir, tu gagnes un truc. Tu gagnes un rire de plus, ou c'est plus évident, ou c'est... Il avait raison. Il n'avait pas le texte sous les yeux. Hein. Il écoutait. C'était vraiment un maître. Moi, ça a vraiment été un maître pour moi. Jacques Martin, avec un égo bouffi, avec une espèce de... Alors vraiment, c'était vraiment le roi soleil, et en même temps un altruisme et une générosité vis-à-vis des autres que j'ai pas rencontré souvent. C'était vraiment un paradoxe sur pied, un monsieur qui était à la fois bouffi à l'hélium, gonflé à l'hélium, son ego était gonflé à l'hélium.
On va pas rentrer
dans une analyse à deux balles, mais c'était vraiment, il y avait ça, il y avait ce côté insupportable de moi, je, et en même temps, au même moment, un regard sur les autres, une solidarité, une fraternité pour les collègues qui avaient moins bien réussi que lui. Ce monsieur, dans le silence le plus total, a fait un bien fou à des tas d'acteurs qui n'avaient pas de boulot, mais tout en se taisant, enfin, vous savez, la vraie solidarité, celle qui se fait dans l'intimité.
La discrétion.
Dans l'intimité qui n'est pas ostentatoire. Oui. Moi, il m'a vraiment ouvert un coin de ciel bleu, ce monsieur. Vraiment. Ouais. Il m'a vraiment ouvert des possibles. C'est un monsieur pour qui j'avais, alors vraiment pour lui, une très profonde affection.
Ah oui. Ah oui, parce que vous avez un chapitre qui lui est consacré. Et c'est vrai que, bon. Et dans le corps du livre, vous avez reproduit plusieurs chansons.
Oui.
Alors. Je ne sais plus si ce sont celles qui vous étaient réservées, mais il y en a pas mal. Hein. On n'aura peut-être pas le temps de...
Non, mais bien évidemment, mais c'est déjà très gentil d'éclairer l'ouvrage comme vous le faites.
Alors, vous parlez aussi de Charles Aznavour.
Oui.
Et là, ça va être... oui, parce que Charles Aznavour... Et il y a Frédéric François aussi, il y a Henri Comasias, il y a beaucoup de vedettes, hein. Il y a Rick Azaray.
J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui me faisait rêver quand j'étais gosse. Le point commun de tous ces gens-là, en fait, c'est que ces gens-là, vraiment, quand j'étais gamin et que je les écoutais, ça me faisait du bien. Mmh. Vous imaginez le bonheur que j'ai eu à écrire pour eux ensuite, quoi.
Bah oui, c'est... J'ai écrit combien de chansons, à peu près? Le chiffre importe peu, mais enfin, je veux dire, c'est pour avoir une vision...
Je suis incapable de vous répondre. Chansons enregistrées?
Enfin, pour...
Enregistrées pour des gens?
Oui, voilà.
Chantées par des gens? Alors, sans compter les miennes, celles que je chante, écoutez, Frédéric François, il y en a déjà 75. Donc, je sais pas, j'aurais tendance à dire, à vue de nez, comme ça, 250, 300 chansons pour les autres.
C'est énorme.
Et pour moi, enregistrées sur disque, à une quarantaine de chansons. Oui, ouais,
je dis ça pourquoi? Parce que généralement, quand il y a des tubes sortis par des tubes de chanteurs, en fait, on connaît le chanteur, mais on ne connaît pas le parolier. On ne donne pas le nom du parolier.
C'est vrai. Et ça m'a toujours énervé. Et c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui d'être administrateur de la SACEM, de lutter pour le droit d'auteur au sein de cette auguste maison, parce qu'il y a des tas de gens qui ne mangent, qui ne peuvent manger, qui ne peuvent faire vivre leur famille que parce qu'ils ont écrit des textes et qu'il faut bien que ces gens-là, on leur rende hommage. Non seulement on ne les cite pas, et de plus en plus, le droit d'auteur, avec la dématérialisation de la musique, ça devient compliqué de toucher des droits d'auteur. Sur des streamings, vous touchez des centimes d'euros. C'est même plus des euros, des centimes d'euros. Enfin, donc ça devient très compliqué pour les créateurs aujourd'hui.
Non, c'est très compliqué. J'ai même vu quelque part dans un journal que comment il s'appelle
Un trou de mémoire ?
Julien Clerc.
Oui.
Ben, Julien Clerc, enfin, entre guillemets, il se plaint de plus bien gagner sa vie.
Oui, c'est. Je l'ai lu le papier. Je l'ai lu le papier. Il dit juste, il alerte les pouvoirs publics. Il ne s'est pas plaint. Je pense qu'il a suffisamment de décence pour ça. En disant, effectivement, moi, vedette Julien Clerc, qui est un monument de la chanson française, aujourd'hui, mes droits d'auteur ont été divisés par deux. J'imagine le sort des collègues qui n'ont pas ma chance.
Parce que des Julien Clerc, il y en a combien?
Voilà, donc si lui s'est divisé par deux, vous savez, il y a un vieil adage qui dit quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Bah ouais, c'est un petit peu
ça. C'est ça, c'est ça.
Je crois que c'est juste un petit peu ça son coup de gueule, de dire si lui, la moitié, ça reste encore confortable, mais des gens qui survivent avec leurs droits d'auteur, aujourd'hui, avec la dématérialisation de la musique, on ne vend plus de CD. Enfin, il y a même des tas d'enseignes qui ne le mettent plus en vente. Donc, toucher sur des streaming, c'est 0,001. Enfin, c'est minuscule, c'est pathétique.
On ne peut pas compter, gagner sa vie avec des disques.
Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Si vous n'allez pas sur scène, si vous n'êtes pas interprète de vos propres œuvres, ça devient très compliqué d'exister, vraiment.
Ah oui, c'est ça.
Vraiment, vraiment, vraiment. Là, il y a eu une récession qui est assez, qui est assez inquiétante.
Ben oui. Bon, on va faire une petite pause musicale. On a parlé de Charles Aznavour, on va passer... le CD duo en solitaire, en plage 1, bien au contraire.
Tout à fait. Vous écrivez, Michel?
J'écoutais des chansons lacrymales à me brûler les yeux comme pour mieux me faire mal, en revisitant Brel dans ses vieux j'ai compris la pendule et l'enfer de celui qui survit. J'ai cherché la sagesse au cœur d'anciens écrits, affirmant que la mort n'est qu'un jour de la vie. J'ai relu mes classiques, les grecs et les latins. Hélas, nulle maxime n'apaise le chagrin.
Et plus jamais, en plus jamais, seule l'absence ne meurt jamais.
Et tout le temps qui passe ne fait rien à l'affaire,
bien au contraire, bien au contraire.
C'est le manque qui se cache à chaque coin de mot, au détour d'une rue, d'un air à la radio. Cette impression étrange de partout te sentir comme un membre fantôme qui ferait encore souffrir. C'est mille fois par jour des piqûres de rappel. C'est fou comme un portable peut s'avérer cruel. Un numéro par cœur qu'on fait les yeux fermés, et le temps d'un éclair pour mieux réaliser.
Et plus jamais, plus jamais, seule l'absence ne meurt jamais.
Et tout le temps qui passe ne fait rien à l'affaire,
bien au contraire, bien au contraire.
Si je te parle ainsi, c'est pour te rassurer.
Et plus jamais,
seul et abandonné dans ton éternité.
En plus jamais,
moi je vais continuer comme tu me l'as appris, à me tenir debout
à remercier la vie. Il est tard, je te laisse, je reviendrai demain. Guetter un de tes signes, de tes sourires en coin. Ma chanson, j'ai autant de mal à la finir qu'à te lâcher la main quand tu as dû partir.
Et plus jamais, plus jamais, seule l'absence ne meurt jamais. Et tout le temps qui passe ne fait rien à l'affaire.
Bien au contraire.
Bien au contraire.
Bien au contraire.
Bien au contraire.
Alors, bien au contraire, une chanson en duo avec Charles Aznavour.
Oui.
Et peut-être vous pouvez me dire comment s'est passée la rencontre avec Charles.
C'est un des plus beaux cadeaux de ma vie professionnelle. C'est, je crois d'ailleurs, le plus beau cadeau de ma vie professionnelle. Charles avait accepté via mon éditeur, qui était aussi l'ami de Charles, donc de Gérard, de mettre ce texte en musique. Ce texte, ben, pour moi, il avait une importance. Voilà, ça parle de l'absence, ça parle... J'ai écrit ce texte après le départ de mon père. Et donc Charles a mis ce texte en musique. Et quand il s'est agi de l'enregistrer, il a accepté de venir. C'était juste le dernier enregistrement qu'on a fait ensemble. C'était 3 semaines avant qu'il ne nous quitte. Il a accepté de venir chanter avec moi en studio. Et quand on écrit des chansons et qu'on a déjà la chance d'avoir un texte mis en musique par Charles Aznavour, c'est déjà... un vrai cadeau, ouais. Mais quand il accepte de chanter vos mots avec sa musique, bien sûr, mais qu'il accepte de venir pousser la chansonnette avec vous, c'est des moments qui restent gravés à vie, quoi. C'est des souvenirs, c'est des images qui me suivront jusqu'au bout, quoi. Moi, je pense que la vie, elle vous fait des cadeaux parfois, et là, c'est vraiment un cadeau magnifique. Enfin, c'est vous pouvez pas rêver mieux, quoi, que de.
Oui, oui, oui.
C'est quand même, quand on aime la chanson, on ne peut pas passer à côté de Charles Aznavour. C'est quand même quelqu'un qui a écrit, qui a mis au panthéon de la chanson française quelques œuvres incontournables. Il fait partie des grands et des grandes de ce métier. Et avoir juste la chance, 2 heures de temps, de chanter une chanson avec lui en studio, je vous assure que ces moments-là, on a envie de les retenir pour les garder avec soi, quoi.
Oui, puis c'est quand même. C'est un grand signe de reconnaissance par rapport à votre talent de parolier, quand même.
Pas à moi de dire ça, mais c'est...
C'est vrai, quand même.
Ça m'a conforté. Ça m'a conforté, ça m'a donné du... Vous savez très bien que ce métier n'est fait que de doutes, et dans les moments de doute un peu plus aigus que les autres, je me dis, ouais, si ce monsieur est venu, m'a mis un texte en musique, c'est que ça doit valoir le coup, quoi. Mais on se... Enfin, vous pouvez
non,
pas être...
Non, c'est pas vos chevilles qui enflent, c'est
non,
pas ça.
Non, c'est pas... Au contraire, c'est un cadeau, et on le prend comme tel, et on a envie, on a envie d'être digne de ce cadeau-là, et de faire mieux encore, quoi. C'est une pression aussi.
Oui, c'est une pression, oui. C'est une pression, mais en même temps...
Une douce pression, c'est une douce pression.
C'est une douce pression.
Et puis c'est un bonheur, enfin, juste le bonheur de passer... On avait été enregistrer ce morceau chez lui, dans le Sud, et il voulait bien chanter, mais si on venait avec tout le matériel... Donc on était allé avec Gérard Capaldi, qui réalise mes albums, et Gérard Davoust, on était allé chez lui, près d'Avignon, la journée qu'on a passée là-bas. Enfin, c'est des moments magiques, c'est un petit film que je vais garder pour moi et dans ma tête jusqu'à mon dernier jour.
Oui,
quoi.
Oui,
ça fait partie de ces rencontres où vous rencontrez en plus quelqu'un d'humble, de gentil, de profondément gentil, oui. Toujours prêt à donner un conseil. Sur le texte, d'ailleurs, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Il a changé 2-3 trucs, il a bougé 2-3 trucs, il a rajouté un participe présent en me disant, mais là, vous avez une répétition. Et avec une grande élégance, en refusant, il me dit, mais c'est votre texte, moi j'ai juste bougé 2-3 trucs. Enfin, une vraie grande leçon. Quand vous parliez de leçon de vie tout à l'heure, lui, c'est une vraie grande leçon de vie, quoi. Être parti d'où il est parti, arriver là où il est arrivé, chapeau bas l'artiste.
Ouais, oui. On va écouter, parce que c'est vrai que le temps tourne.
Oui.
Alors, je pensais, on va écouter Monsieur de la télé de Marie-Paul Belle, et puis un texte dit par notre ami Jean-Marie Blanche, Paris à 5 heures.
Avec plaisir.
Voilà.
Ça commence par un regard en point d'interrogation, puis d'un coup sans crier gare, toujours la même question.
J'ai l'impression de vous connaître, vous me rappelez quelqu'un, mais où avais-je la tête? À la télé le matin.
J'approuve d'un air placide, attendant les compliments, mais l'inconnue est perfide et elle ne met pas de gants.
C'est drôle de vous voir en vrai, je ne vous croyais pas si gros, mais c'est vrai qu'à la télé on ne cadre que le haut. Et dites, puisque je vous tiens, vous qui les connaissez bien, elle est comment, Sophie d'avant? Est-ce qu'il est gentil, l'émergie? Faut-il coucher pour faire carrière avec toute la famille Drucker? Et de la housse sous son brushing, a-t-il vraiment fait un lifting? Evelyne Delia, ça j'y crois pas. Ah non, elle l'est fait vraiment pas. Mais je ne veux pas vous embêter, j'espère que c'est pas indiscret. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé.
Mon ego en prend un coup, car je comprends à présent que de mon nom elle s'en fout, comme de son premier amant. Je me dis, ben c'est la vie, faut pas en faire une salade. Quand elle hurle à son mari,
viens voir ces grands corps malades.
Et j'entends le concubin me dire, puisque je vous tiens.
Elle va comment, Sophie d'avant? Est-ce vrai ce qu'on dit sur Nagui? Faut-il être admis à Sciences Po pour jouer au jeu de Beccaro? Et qui d'Anouna ou d'Arthur a la plus grosse des voitures? Et Sébastien, si on le pousse, sort-il son petit bonhomme en mousse? Mais je ne veux pas vous embêter, j'espère que c'est pas indiscret. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé.
Dorénavant, j'ai trouvé ma petite vengeance à moi. À qui veut bien m'écouter, je raconte n'importe quoi. J'en ai ruiné des carrières, j'en ai fait tomber des mythes. De ma langue de vipère, je détruis, je dynamite. Et en me frottant les mains, je distille mon venin. Elle est tellement Sophie d'avant, mais vu ce qu'on dit sur l'émergie, pour bosser à télématin, fallait vraiment y mettre du sien. Et de la housse, sa vraie blondeur, ce dev qui lui fait sa couleur. Et Hanouna, la vérité, il va racheter tout Bolloré. C'est pas que je veuille tout gâcher, mais ça soulage de balancer. Pas tous les jours qu'on peut chanter ce qui se passe à la télé. Pas tous les jours qu'on peut chanter ce qui se passe à la télé.
Elle est comment, Sophie d'avant? Est-ce qu'il est gentil, l'émergie? Faut-il coucher pour faire carrière avec toute la famille Drucker? Et de la housse sous son brushing, a-t-il vraiment fait un lifting? Evelyne Delia, ça j'y crois pas.
Ah non, elle est fait vraiment pas.
Mais je ne veux pas vous embêter, j'espère que c'est pas indiscret. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé. Pas tous les jours qu'on peut parler à un monsieur de la télé.
Alors c'est qui ce monsieur de la télé?
Ben c'est ce qu'on vit quotidiennement quand on a un petit second rôle comme ça, un petit strapontin à la télévision, ce qui m'arrive le matin dans Télématin lorsque je fais des chroniques musicales. Et je me suis amusé de la réaction des gens lorsqu'ils vous rencontrent, qui vous remettent mais pas vraiment, qui vous connaissent, qui vous cernent mais qui savent pas vraiment, et qui vous posent toutes les questions qu'ils se posent. Est-ce qu'elle est vraiment gentille, machin?
Ah oui, d'accord.
Voilà,
c'est
donc
drôle.
C'est vraiment de l'autodérision, quoi. C'est ce que je vis à longueur de journée.
Ah ouais. Mais figurez-vous, j'en ai parlé à un auditeur, Fabien, on vous recevait aujourd'hui, dessous de scène, j'allais dire à Télématin, non? À dessous de scène, j'allais faire un lapsus, et il m'a dit, ah oui, mais je ne savais pas que J'ai dit que vous étiez sur un fauteuil roulant.
Oui.
Et il m'a dit, mais je ne savais pas.
Oh, ça commence à se savoir maintenant.
Oui, mais bon, en fait, c'est pas forcément ce
et qui... Puis c'est pas non plus, et puis, c'est pas non plus un argument de... Moi, non, à la télé, je vais pas mettre...
C'est pour vous dire que, finalement, c'est pas là, ce qu'on retient.
Et le monsieur de la télé, ça parle pas du tout du fauteuil roulant.
Voilà,
hein.
C'est pas ce qu'on retient de vous.
Ça parle du rapport des gens à la célébrité, à la pseudo-célébrité. Et quand ils vous croisent, alors, dites-moi, les potins, quoi. C'est les potins, on sait pas tout. Alors, est-ce que machin couche avec machin? Est-ce que, voilà, c'est la vie de tous les jours.
C'est la vie de tous les jours. Le
regard des gens de la rue sur ce qui est censé être un truc qui a encore un petit peu de pouvoir, semble-t-il.
Oui, enfin, c'est rigolo, quoi.
Voilà,
enfin, on va
c'est
pas...
amusant.
C'est une chanson pour rire, quoi.
Exactement.
Pour rigoler. Et puis d'ailleurs, moi, j'ai eu l'occasion de, sans avoir l'idée qu'un jour nous vous recevions de Soutzen, j'ai eu l'occasion d'écouter vos chroniques musicales à Télématin.
Hein,
et j'avoue que j'apprécie vraiment.
Merci beaucoup,
pour de vrai, parce que toujours pas mal de, vous avez de la chaleur, quoi, pour présenter. Je trouve que vous le faites vraiment.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci.
Et alors, j'allais vous demander, c'est quand la prochaine? Quand est-ce qu'on va pouvoir
Je suis en vacances et je reprends l'antenne le samedi 7 janvier.
Samedi 7 janvier,
on réattaque. Là, je vais partir un petit peu me reposer, je vais partir un petit peu en vacances, partir écrire, parce qu'il faut quand même, là, maintenant, se mettre au boulot pour les prochaines chansons.
Ouais.
Et puis, voilà, j'ai des petites idées aussi pour un prochain bouquin. Enfin, j'ai plein de choses sur le feu, quoi.
Ah, j'allais vous demander quels étaient vos projets, là. Donc, plein de choses sur le feu.
Un nouvel album, on en a très envie. Bon, il y a plein de petites dates qui, là, sur le premier semestre 2023, vont m'amener à pas mal voyager. Donc, je suis très content d'aller chanter. J'ai pas mal de signatures de bouquins dans pas mal de salons du livre. Et puis, préparer le prochain album. Et puis, préparer une nouvelle scène à Paris. Enfin, voilà, il y a de quoi faire, quoi.
Il y a de quoi faire. C'est super.
Tout va bien.
Donc, oui, on va passer Paris à 5h du matin. Alors, la plage, je vais te la dire, c'est la plage 16.
C'est précis.
J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. Ah bon? C'est pas la plage 16?
Non.
C'est le disque de Jean-Marie.
On va y arriver, mais c'est de la radio en direct, ça, moi j'aime bien.
16.
C'est de la radio en direct, avec
Paris
les ailes du direct.
Il n'y a pas de 16.
Et Michel, vous voulez pas nous dire un texte en attendant?
Non, en fait, j'avais pas pris de texte. J'avais juste pris un petit... Enfin, si, c'est un texte, mais c'est pour parler d'une sorte d'anniversaire. Quelque chose qui s'est passé il y a 193 ans à Noël.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 193 ans
L'exposition de la doctrine saint-simonienne qui a été éditée ce jour-là.
À Noël, il y a 193 ans?
Oui, voilà.
Ben, vous m'apprenez quelque chose.
Et beaucoup de gens s'imaginent que Saint-Simon, c'est un saint sur un nuage, alors qu'en fait, c'est son nom. Hein.
Pas du tout, bien sûr.
Il s'appelait de Saint-Simon, comme ses ancêtres. Et les Saint-Simoniens, donc, l'appelaient Saint-Simon. Mais c'était pas, c'est pas du tout une référence religieuse.
Ah non, pas du tout. C'était quelqu'un
non,
qui
était... Bon, il y a peut-être des gens qui le savent pas.
Qui était totalement ancré dans la, dans la politique de son époque, dans son époque, était bien contemporain de son...
Bah c'est un petit peu lui qui a initié, qui a voulu abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, etc., qui a écrit... Donc, ils l'ont écrit à plusieurs, cette exposition, la doctrine Saint-Simon, c'est le titre du livre, en fait.
D'accord. Et qui a donc été publié le 24 décembre.
Oui.
Mais c'est un beau cadeau de Noël, je pense, pour... Pour la collectivité, pour l'humanité, c'est pas mal.
Oui, c'est dommage que ça soit pas réédité, parce que, en fait, s'en sont inspirés notamment beaucoup de gens. Il était très proche d'Alembert, l'encyclopédie d'Alembert.
Oui.
Auguste Comte, etc. D'Alembert, qui n'a pas fait que l'encyclopédie, il est connu pour ça, mais qui a fait progresser les mathématiques, sérieusement. Et puis, il y a aussi le fait que ces idées ont été reprises et qui, malheureusement, ont été, pour moi, personnellement, à mon avis, dévoyées un peu par Marx, à la fin, qui nous a trouvé l'idée de faire une dictature pour échapper à la dictature, ce qui, à mon avis, n'a pas fonctionné et a été dramatique. Et donc, voilà, j'avais envie de reparler de ça. J'espère qu'un jour, ce livre, cette exposition de la doctrine saint-simonienne,
oui,
sera réédité.
Mais espérons-le, espérons-le. En attendant, nos amis cherchent la prochaine plage de disques. Ça nous a permis de faire un petit peu plus connaissance avec vous, Michel.
On a un petit problème technique.
Voilà. Non, vous inquiétez pas, on a meublé, vous embêtez pas.
Oui, je m'en doute. Et alors, ce sera Chemin des Fées, de Jean-Marie Blanche. Bon, il y a un petit problème technique. Malheureusement, la console ne veut pas reconnaître le disque. Donc, Jean-Marie, ce sera pour la prochaine fois que passera Paris à 5 heures, ou Chemin des Fées, ou un autre étrange et étranger. Voilà. Désolé, ce sera pour la prochaine fois.
Eh bien, écoutez, on reviendra.
Alors, on va passer Vivre.
Très bien.
Les doigts, et l'on remet ce que l'on doit. On se dit ça ira demain. Oui, mais demain c'est déjà loin. On croit à l'avenir infini, et l'on reporte sans souci ces preuves d'amour ou d'amitié qui pourraient finir en regret. Vivre, c'est urgent. C'est ici et maintenant, c'est leur dire tant qu'il est temps aux gens qu'on les aime tant. Je le sais, on n'a qu'une vie, mais trop souvent on la défie. Et l'on en perdrait l'essentiel, on en oublierait qu'elle est belle. Est-ce le privilège de l'âge? Les années nous rendent plus sages. Je sais le bonheur bien fragile, je sais tout ne tient qu'un fil. Vivre, vivre, c'est urgent, c'est ici et maintenant. C'est leur dire tant qu'il est temps aux gens qu'on les aime tant. Mais le futur est prometteur, comme tous les pokers menteurs. Et tous nos rêves du passé sont à tout jamais dépassés. Je veux des plaisirs plein la tête, des fous rires et des soirs de fête, et profiter de chaque instant comme le plus beau des présents. Vivre, vivre, c'est urgent, c'est ici et maintenant. C'est leur dire tant qu'il est temps aux gens qu'on les aime tant.
Frédéric Zetoun,
merci beaucoup
de votre passage à De Soutzen. Hein, nous en sommes très, très fiers. Et donc, fauteuil d'artiste aux éditions L'Archipel.
Tout à fait.
Voilà, qui vient de paraître.
Et merci à vous. J'étais vraiment ravi de passer ce moment avec vous. Il est important que des radios comme la vôtre continuent à exister, à se faire entendre.
Voilà. Merci beaucoup.
Merci à vous.